Radio.
Je suis née à Paris.
En Bretagne.
Nous habitions une ferme sur 25 hectares.
Je commençais très jeune à militer. J'étais convaincue que nous allions changer le monde.
Ça, c'est le monde que tu connais. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui.
Amis du soir, bonsoir. Je vous propose ce soir de rencontrer une femme qui a décidé très jeune de son destin. En effet, à 7 ans, Catherine Pinvin rêve déjà d'une vie où elle aurait un château, beaucoup d'enfants, qu'elle serait sa propre patronne et voyagerait autour du monde. Avec une détermination sans pareille, Catherine a réalisé ses rêves. D'abord, à 13 ans, en vendant déjà ses petites créations, à 20 ans, en montant son affaire et en créant 10 ans plus tard, en 1977, la célèbre marque pour enfants Tartines et Chocolat. Une énergie peu commune, travaillant des nuits entières jusqu'à épuisement, cette artiste et entrepreneuse à la fois a tout conquis, mais aussi tout perdu, puis tout reconquis. Une vie de passion, de création, mais aussi d'épreuves, comme son combat contre la maladie depuis 15 ans, que Catherine a décidé de raconter avec beaucoup d'humour et de lucidité dans un livre paru chez Jean-Claude Lattès, dont le titre la caractérise si bien, Une vie et 5 minutes. Partir avec Catherine Pinvin, c'est entreprendre une traversée des extrêmes. Prenez votre souffle.
Je suis très contente que vous soyez là aujourd'hui et pour me faire parler de ce livre que j'ai mis 10 ans à préparer et décidé de faire en 5 minutes.
Comme tout ce que vous faites dans la vie.
Comme tout ce que je fais dans la vie. D'habitude, ça peut être une minute aussi.
Catherine Pinvin, avant de commencer véritablement cette interview, j'ai envie de vous dire merci d'avoir écrit ce livre. Parce qu'à la fin de la lecture, vraiment, vous m'avez transmis à travers tous ces récits de vie, la pêche, l'énergie, c'est ça que je vais retenir, une énergie incroyable. Et ça vous vient d'où cette énergie? Vous avez un optimisme hors du commun.
L'optimisme, il est vraiment chevronné. L'énergie, j'en ai hérité, je suis née comme ça. Puisque très petite, je ne joue pas, mais je fais des poupées en coquillage par centaines. Ça veut dire 200 bras, 200 jambes, 200 pieds. Pour peu qu'elles aient un chien, ça va faire 400 pattes de chien. L'énergie, il a fallu, la rigueur et le travail. Et l'optimisme, je crois que je me le suis fabriqué parce que si on n'est pas optimiste, on n'avance pas. À 67 ans, des domaines, j'en ai connu plusieurs. Ça, c'est mon expérience qui parle. L'optimisme est nécessaire.
Et la créativité aussi, vous avez cette chance d'avoir une créativité extraordinaire. Vous dites même que c'est une colonne vertébrale.
Oui, je tiens debout grâce à elle. Dans ce livre, j'évoque tous les moments difficiles, les moments où je suis à terre. Et quand on est à terre, l'avantage, c'est que c'est comme quand on est au fond de l'enfer. Enfin, on est tout en bas, on ne peut que remonter. Et quand je suis à terre, grâce à une phrase de Karen Blixen dans Out of Africa, Je suis habituée maintenant à savourer le moment où on est à terre, et en savourant, il se passe des secondes, et en moins d'une minute, j'ai une idée qui m'arrive. Je sais que cette idée qui vient de m'arriver, je vais pouvoir lui donner jour.
Quelle est cette phrase de Karen Blixen?
Je ne peux pas vous redire la phrase de Karen Blixen, parce que c'est vraiment en anglais, et je ne saurais pas vous la traduire. L'autre phrase d'elle, dont je me souviens, c'est « Épreuve par épreuve, nous les femmes, c'est notre patience que l'on teste ». Notre aptitude au manque, notre capacité à endurer la solitude. Donc ça, cette phrase, elle est gravée dans ma tête. L'autre phrase, c'est quand elle sent que son fiancé va la quitter, elle dit que quand elle souffre, quand elle est dans une situation difficile, elle prolonge cette situation pendant encore quelques secondes pour savoir jusqu'où elle peut aller. Mais je l'ai vraiment ressentie, mais des dizaines de fois.
Catherine Pinvin, cette créativité qui est votre colonne vertébrale, comment la contacter quand on n'y arrive pas? C'est l'inspiration.
C'est de l'inspiration. Alors, si je suis dans la rue avec vous et qu'on marche toutes les deux côte à côte, on va se poser au bout d'un quart d'heure et on va se demander ce qu'on a vu. On n'aura pas vu la même chose, vous et moi. Et si vous me demandez après ce que ça m'inspire, ce que j'ai vu, je peux monter une entreprise à partir de ce que j'ai vu, parce que ce que j'ai vu m'aura donné une idée. Et c'est comme ça, en permanence. C'est très fatigant.
Faut vous suivre.
Peu y arrive. Dans mon travail, dans Tartines et Chocolat, j'étais la seule styliste. Je crée 2000 produits par an. Les secrétaires achetaient, validaient mes sélections de rubans, etc., ou de tissus. Mais je reconnais que j'étais difficile à suivre. Et mon fils Nicolas, qui a 50 ans aujourd'hui, me l'a ravoué la semaine dernière.
Et les hommes de votre vie aussi auraient du mal à vous suivre.
Ah, alors ça, c'est un grand débat. Parce que les hommes, en tout cas mes deux maris, je les ai choisis. Mais ces deux hommes étaient séduits par ma force, précisément. Ça peut aussi être communicatif. C'est-à-dire que dans l'entreprise, j'adorais aller dans les usines avec mes filles. Et quand on arrivait toutes les trois, on avait chacune un rôle bien précis. Mais on arrivait chez des gens qui avaient des chefs de produits, des chefs de marché, des etc., etc. Et ils étaient tout excités à chaque fois qu'on arrivait parce qu'ils nous disaient toujours que ma force était communicative et que je leur redonnais de l'énergie pour la semaine ou pour le mois qui venait. Et ils adoraient cette énergie que je dégageais, mais très naturellement.
Je vais vous dire, à travers votre écriture aussi, ça s'est senti. Alors, moi, vous m'avez transmis de l'énergie.
Et cette énergie m'a été, elle, communiquée par bonne maman, ma grand-mère, qui mesurait presque 1m80, qui était une femme magnifique, avec des grands yeux bleus.
Bonne maman, c'est
la maman de mon père. Bon, papa et bonne maman m'ont eu pendant toutes les vacances scolaires, pendant 15 ans. Et bonne maman avait une rigueur de vie qui m'impressionnait parce qu'elle avait deux personnes dans sa maison, une qui s'occupait du linge et l'autre du ménage, et elle rangeait tout tous les soirs. Je comprenais pas pourquoi tout était impeccablement rangé. Elle me disait, si tu veux te faire respecter du personnel, quel qu'il soit dans ta vie, tu dois toi-même le respecter. Cette pensée de bonne maman, je vous jure que je l'ai adaptée toute ma vie au personnel dans les usines où je suis allée pendant les 30 ans de tartines et chocolat, ou avec mon personnel dans ma première usine où j'avais plus de 100 personnes.
Écoutez l'histoire impressionnante de Catherine Pavin, une histoire réalisée et habillée par Simone de Poux, préparée par Corinne Valente, mixée par Arnaud Caillé et Julien Michel, et c'est Monsieur Djoubaka qui a signé la programmation musicale.
Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens.
Catherine Pavin, d'où venez-vous ?
Je viens d'une région, les gens qui vont y habiter vont pas être contents, mais que j'appelais bâtarde parce que c'était la limite de la Bretagne et de la Normandie. Ça me marquait au point que, quand j'étais dans ma chambre, je me disais, moi je serais de nulle part ou de partout. Le fait d'être à la limite de deux pays, d'être ni bretonne ni normande, m'a donné envie d'être une voyageuse du monde.
C'est ce qui y arrivera d'ailleurs.
J'ai calculé, je suis allée dans 97 pays dans le monde déjà.
Catherine, en écrivant votre histoire, vous vous êtes rendu compte que finalement vous ne détestiez pas tant que ça votre enfance, parce que c'était autre chose que vous n'aimiez pas dans cette enfance.
Alors, je croyais que je n'aimais pas mon enfance parce que j'étais la plus petite d'une famille de 4 enfants et maman a élevé 6 garçons en plus. J'étais la toute dernière. Donc, je n'aimais pas de cette enfance, toutes les blagues qu'on me faisait. Mon père et mes cousins avaient l'habitude de me dire dans la même phrase que j'étais trop conne ou que j'étais trop forte. Donc ça crée une ambiguïté, quelque chose qui était incompréhensible pour moi. Alors de cette enfance que j'ai quittée très tôt, puisque je me marie à 17 ans et que je me fiance à 14, j'avais l'impression que tout était compliqué. Mes parents perdaient tout, mes grands-parents étaient obligés de boucher les dettes. C'était pas très gai, je n'allais que au bord de la mer avec mes parents, mais je faisais pas de voyage. Donc cette enfance n'était pas gaie à mes yeux, mais avec le recul, et vous avez raison, en écrivant mon livre, je me suis aperçue que tous les principes fondamentaux qui font ma force, qui font la femme que je suis aujourd'hui, et qui font le repère, parce que je ne veux pas être prétentieuse au point de dire le modèle de mes petits-enfants et de certains de mes enfants, tous ces principes-là viennent de cette enfance qui était très feutrée auprès de mes grands-parents, de ma tante et de son mari.
Vous dites que vous avez une enfance normale avec vos grands-parents.
Avec mes grands-parents, j'étais une petite fille normale. J'allais en vacances chez mes grands-parents, on s'occupait de moi. Les horaires étaient réguliers, il n'y avait pas de cris à table, il n'y avait pas de problème à régler dans leur maison. Tout était reposant et tout était calme.
Et à 7 ans, il y a un événement qui vous a marqué au fer rouge.
C'est plus qu'un fer rouge, c'est un tatouage de tête de mort dans mon cerveau de petite fille. À 7 ans, mes parents et mes trois frères et sœurs partent en Alsace et me laissent à Fougères, sur le trottoir, aux bons soins de notre femme de ménage et de ma marraine et de la couturière. Et tout ce monde-là, 60 ans ou 70 ans, et je suis abandonnée. Cet abandon va me marquer donc comme un tatouage toute ma vie. Et à partir de cet instant, je décide que moi, j'aurai une grande famille et que je ne la quitterai jamais, cette famille, que je les emmènerai partout avec moi et que j'aurai une maison suffisamment immense, voire un château, parce que j'en connais un où on va tous les dimanches. On va dans un restaurant dans la forêt et à côté de ce restaurant, il y a un énorme château abandonné aux herbes folles. Et moi, je m'y promène. Quand je suis dans ce château, je vois une grande famille. Je vois un mari, des enfants, des amis. Je vois que ça bouge. Ce qui est l'inverse, parce que chez mes parents, la vie est dure parce qu'ils sont en train de tout perdre. Et finalement, tout ça vient de ce jour où ils m'ont abandonnée et ça n'a jamais été réparé.
Il y a à peu près une dizaine d'années, vous êtes en train de signer un contrat et vous revoyez encore cette petite fille de 7 ans abandonnée. C'est fou.
Didier Rocher, c'était dans les années 90. J'avais un contrat avec Petit Bateau et son père venait de racheter Petit Bateau. Et lui décide de changer ce contrat. À l'unanimité de sa voix, il décide de l'inverser, de changer et en revanche, de le prolonger de 15 ans. Évidemment, c'était inacceptable. Et j'ai revu la scène. Cette scène m'a donné la force inouïe de lui dire... Vous avez vu votre père dans une pleine ascension. J'ai vu mon père tout perdre, tout descendre. Vous voyez, monsieur, nous n'avons rien en commun. Et c'est cette force de lui dire ça. Je pense que c'était la première fois que j'étais capable d'affronter un homme. Parce que mes maris, je ne peux pas les affronter. Je suis liquéfiée devant mes maris. Après, dans Tartine et Chocolat, je dois signer des contrats. Mais ça n'est plus du tout la même chose. Il y a un homme qui est en face de moi qui veut signer un contrat de collaboration. Là, je suis une femme d'affaires, une femme adulte, une femme posée. Et j'ai, de cette manière-là, j'ai signé peut-être une centaine de contrats. Avec Didier Rocher, il y a eu un énorme conflit. Il voulait m'abaisser. Et bien ce jour-là, encore dans mon enfance, j'ai trouvé la force de tenir tête à Didier Rocher. Mais j'ai été très 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 ferme et j'ai réussi à obtenir ce que je voulais de Didier Rocher.
Grâce à cette petite fille.
Grâce à cette petite fille qui est tenace.
Et qui avait décidé aussi de ne pas apprendre la vie des rois très morts, mais par contre d'être drôle. Une reine. J'ai adoré ça.
Alors, ma mère a un nom magnifique, elle s'appelle Reine Sercombe d'Aspre. C'est trop trop beau comme nom. Donc j'avais décidé de ne pas apprendre la vie de tous ces rois et de tous ces très 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 morts, parce que je me disais, de toute façon, il y en avait tellement que ça servait à rien, je m'en souviendrai jamais. Et oui, un jour, avec un mot d'humour, j'ai dit à mon professeur d'histoire, de toute façon, moi je serai reine moi-même et je serai très 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 vivante. Et j'ai passé 30 ans de ma vie à pouvoir, parce que je m'étais offert cette possibilité, dormir à Paris au Bristol, et dans le grand bar du Bristol, il y a un grand canapé avec 6 fauteuils autour, et avec la reine, comment s'appelle-t-elle, Marie-Antoinette, sur le mur. Et c'était très drôle parce que j'étais toujours sous Marie-Antoinette qui avait perdu la tête et je signais tous mes contrats en dessous de Marie-Antoinette. Et je fêtais mes contrats signés. Le soir, je dînais au même endroit, mais avec mes enfants, pour fêter les contrats signés. Et à chaque fois, ils me leur disaient, « Maman, toi qui voulais être reine, t'as trouvé le bon endroit. »
Catherine Pavin, en fait, vous n'allez pas vraiment aller à l'école très longtemps. Vous décidez très tôt de vivre votre vie. Vous avez des idées tout le temps, même vous les soumettez à votre père, qui n'est pas d'accord du tout. Et très tôt, donc, vous allez fabriquer des poupées en coquillage.
Alors, les poupées de coquillage, j'ai 7 ans et mes parents ont des problèmes d'argent. Donc, ces poupées de coquillage me permettent d'acheter la première télévision de mes parents. Parce que je les fais par 10, puis par 20, puis par 50, puis par 100. Et je les vends à la fin des vacances. Je vais les vendre dans des petites boutiques. Et comme mon papa a des grands magasins de 5000 mètres carrés, c'est un personnage connu, respecté. Et pour cette raison, je pense qu'on accepte de prendre en dépôt les poupées de la petite fille. Mais ça, ça va être le début de la grande histoire. Très tôt, je vois qu'on ne m'écoute pas à table. Moi, j'ai des idées pour eux, pour leur magasin, mais on ne m'écoute pas. Je me dis, pour m'écouter, je vais trouver une solution, je vais me marier. Donc, je me fiance et là, je prends une gifle de mon père. Je me fiance à 14 ans avec un garçon qui a l'air très amoureux. Mais ce n'est pas gagné. Ce n'est pas parce que je suis fiancée que c'est gagné. Alors, je trouve une autre astuce. Je suis enceinte. Donc, on fait un bébé. On le fait sciemment. On se dit, on n'a qu'à faire un bébé et on les mettra devant le fait accompli. Et au bout de 3 semaines de première, je quitte l'école parce que je suis enceinte d'un mois et demi de Nicolas.
Vous allez vous marier avec lui ?
Alors, je me marie avec lui le 7 décembre, un mariage absolument dingue, glauquissime. On ne peut pas faire pire. Il faisait froid, brumeux, un lundi. Et c'était un mariage absolument pas accepté par la famille d'aucun des deux côtés. Alors, il commence très bien parce qu'on part à Saint-Cloud chez sa tante, qui a un château magnifique. Je vois un vrai château vivant pour la première fois, avec un dîner divin, une nuit divine et un petit déjeuner absolument merveilleux. Puis nous partons en train pour Chamonix. Et à 6 heures du matin, quand je me réveille dans ma couchette, il n'est plus là. Et je m'habille et je vais le chercher et je le trouve dans une autre couchette avec une autre femme. Ça, c'est moins drôle. Et à partir de là, arrivé à Chamonix, à l'hôtel, j'appelle mon père pour divorcer. Et papa me dit, c'est bien fait pour toi. Je vais donc m'apercevoir que l'homme que j'aime depuis 4 ans a des aspects très cachés que j'ignorais parce qu'il s'était extrêmement bien me protéger.
Mais malgré tout, vous restez avec lui.
Je passe 8 jours absolument horribles à Chamonix. Je rentre à Paris. Et là, je suis en permanence branchée avec bonne maman, mais je ne l'appelle pas. Elle mérite mieux que ce genre de coup de fil. Je repense à sa grande main sur mon petit dos l'été de mes 14 ans. Et je vais serrer les poings. Et je vais continuer. Et puis, il faut se dire que c'était il y a 50 ans. Il y a 50 ans, on divorce. C'est pas comme ça. Nicolas va naître. Et 3 mois après, je suis à nouveau enceinte de Caroline.
Oui, il n'y avait pas la contraception.
Il n'y avait pas la contraception. Et puis, ce sont des sujets qu'on n'aborde pas. Je ne pouvais pas aborder ces sujets avec maman. C'était mais totalement inenvisageable. Ma sœur Annie, qui a 13 ans de plus que moi, ne pouvait pas non plus discuter avec mes parents. Elle était partie très jeune parce qu'elle étouffait dans cette famille. Mais je la rêvais, cette famille nombreuse, quand j'étais dans ce château, dans la forêt de Fougères. Donc, il était où le problème ? Là, je voyais le verre à moitié plein. J'avais déjà 2 enfants, j'étais sur la bonne voie. Donc, j'essayais de mettre de côté le problème absolument monstrueux, affectif, mais au moins, je démarrais la grande famille.
Oh, ton cœur est sauvage, il ne répond pas. Toujours comme un sage aux nouveaux appâts. Quand l'esprit amoureux dans des filetons, parfois c'est du sérieux, parfois boum. C'est une bombe, ouh, éternel esprit, éternel esprit, ouh, du bois tu n'es pas sorti, du bois tu n'es pas sorti. Oh, ton corps est rebelle, il s'attache trop aux amours étincelles. D'une âme sœur et pas d'adolescente, pas d'enchérisseuse et pas d'inconstante. Ouh, éternel esprit, éternel esprit. Ouh, du bois tu n'es pas sorti, du bois tu n'es pas sorti. Tu fais le difficile, tu chipotes et tu veux des filles au sourire facile qui te prennent pour un dieu. Si ton cœur est sauvage et ne répond pas sur un ton plus sage, adieu, adieu à toi.
Marie-Pierre Planchon sur France Inter.
Catherine Pavin, là, vous commencez à créer des pense-bêtes.
Oui, alors je vais être obligée de créer des choses parce que l'argent de ma dot a été volatilisé, son argent aussi à lui. L'entreprise qu'il avait créée est perdue. J'ai 19 ans, j'ai déjà 2 enfants, j'attends le troisième et je vais créer des pense-bêtes en Vichy avec l'aide du magasin de papa puisque je vais au rayon des meubles couper les morceaux de bois, au rayon des tissus chercher les tissus en Vichy, au rayon des galons chercher les galons. Et tout près de là, il y a Monoprix. Et à Monoprix, j'achète un carnet et je mets un petit bouquet de fausses fleurs que je prends aussi au rayon de la mercerie où on met des fausses fleurs sur les chapeaux des dames. Et je fais mes premiers pense-bêtes. Je prends le même circuit que les poupées. Et mes pense-bêtes, les 10 premiers mis en dépôt se vendent. Et c'est le début de centaines et des milliers de pense-bêtes et autres couvre-téléphones.
Les
couvre-téléphones en velours, les brosses en velours. Ma troisième fille naît quand j'ai 20 ans.
Vous travaillez jusqu'au dernier moment.
J'ai créé depuis 6 mois une petite boîte d'allumettes. Donc, la boîte d'allumettes, je l'ai trouvée, mais je l'ai habillée de 2 rubans de velours et d'un ruban de fleurs. Et puis une petite attache en velours derrière. Et je les vends depuis 6 mois, mais c'est exponentiel. Les gens me les achètent par 12, par 24, par 48. Et là, le drugstore de Toulouse m'en commande 1440. Et je vais accoucher le lendemain. Et maman me dit, viens chez moi. Tu vas te servir de ma grande table de salle à manger. Je vais m'occuper des deux aînés. Et je fais ça la nuit qui précède l'accouchement d'Emmanuel. Et je m'arrête à 6h du matin. Mes boîtes d'allumettes sont finies. Je me repose un peu. J'accouche à 15h15 à la clinique. Mais 15 jours après la naissance d'Emmanuel, j'ai une hépatite. Et je suis épuisée. Et il va falloir trouver une solution.
Il faut dire aussi que vous dites à votre père que vous allez créer ci, ça, les boîtes d'allumettes. Il vous dit, mais non, c'est pas une bonne idée du tout.
Mais papa, il considère que c'est complètement stupide, que ça va nous mener à rien. Oui, quand j'ai une bonne idée, je fonce. Moi, je sais exactement ce que je veux. Celle qui s'y colle, elle est collée les 1440 multipliées par 4 petits bouts de galon. On va pas faire le calcul là, mais je l'ai fait. C'est quand même moi qui m'y colle. Parce que
et vos doigts,
au moment où je fais ça, le papa de ce charmant troisième bébé n'est toujours pas là, à la clinique. Je dis, il est parti voir une autre forme de bretonne. Elle a d'autres avantages que sans doute, je n'ai pas.
Catherine Pavin, en tout cas, contrairement à ce que vous prédisez votre père, vos idées fonctionnent merveilleusement bien, jusqu'à un moment où un Américain veut vous commander des bocaux qui seront destinés à des bonbons, mais le couvercle doit être différent. Et là,
je fais des bocaux avec un couvercle en bois, j'insère la capsule dans un bouchon en bois et je les vends par 24 ou 48, mais vu que je suis insatiable, et que les boîtes d'allumettes se vendaient par 1400, je cherche une solution pour vendre ces bocaux par milliers. Et je prends un stand au salon de la confiserie, et le premier client m'en achète 9000, mais demande de les remplir de 9 tonnes de bonbons, ce qu'on va faire. Et le deuxième client, lui, est un Américain, c'est le patron du service déco de Neiman Marcus à Dallas, qui va m'acheter 10 000 bocaux, 2 fois par mois, en les payant d'avance. Et ça, c'est le début de la partie professionnelle. On va devenir une vraie entreprise avec une connexion mondiale. Je vais inventer d'autres choses qui sont les sets de table en plastique en forme de pomme et de poire qui vont également faire
le tour du monde,
de Neiman Marcus de Dallas à Tokyo.
Il faut vous imaginer, hein, vous racontez que vous couchez, les 3 petits sont en pyjama, vite, il est 21h, genre, vous prenez la camionnette et vous foncez à l'usine d'un ami qui vous la prête la nuit. Et là, vous dites, hein, je n'oublierai pas le jeune Clément qui m'attendait pour m'aider. Oui. Je n'oublierai pas son sourire, sa gentillesse.
Je ne peux pas l'oublier, Clément, puisque après, je vais faire une affaire avec ces gens-là. Mais il faut imaginer que Clément a 14 ans, il m'attend. Parce que mon mari est contre cette idée-là, et il s'en va, il n'est encore pas là.
Et il n'est jamais là.
Il n'est pas beaucoup là. Et moi, je vais dans cette usine et je demande au propriétaire de me prêter ses presses à découper la nuit, quand elles ne servent pas. Et j'ai mon emporte-pièce en forme de pomme et de poire, et je peux ainsi me servir de son usine toute la nuit. Et Clément est fasciné par mon énergie. Il était comblé par cette sorte de folie énergétique et énergique que je lui démontrais. Et très vite, les sets de table se vendent par 6, déjà pour autour d'une table, ou par 8 ou par 12. Et je crois qu'on en a vendu 1,5 million. Et à un moment donné, je suis allée acheter moi-même la grosse machine. Mon mari m'a accompagnée en Hollande et on a acheté cette énorme machine. Et là, on est passé à un stade industriel. On a construit une seconde usine.
Et pendant toutes ces années, hein, vous dites, c'est l'acharnement au travail qui me sauve toujours.
Mon mari est un homme qui aime les femmes. Et quand on est marié, qu'on a 3 enfants, et que son mari n'est pas là, on sombre très facilement. Mais quand j'étais à terre, c'était le travail et la créativité qui me sauvaient. Parce que les nuits, je les passais dans l'usine, et ainsi, je pensais pas. J'ai 67 ans, ça n'a pas changé. Quand ça va pas, l'ergothérapie est parfaite. Hein. Je trouve toujours des solutions qui vont m'occuper les bras, à défaut de m'occuper la tête.
Catherine Pinvin, au début des années 70, donc, vous étiez présent partout dans le monde, avec ces 7 de table, c'est vraiment une explosion commerciale, mais le succès que vous vivez, en fait, contraste avec votre vie privée.
Oui, je suis complètement dévastée parce que ma vie privée ne ressemble à rien de privé, d'ailleurs, puisque vu qu'elle est partagée avec un nombre de filles... assez important, j'ai plus l'impression qu'on soit dans le privé. Et la nuit de mes 10 ans de mariage, alors que j'ai préparé une réception parce que nous gagnons beaucoup d'argent, qu'on habite dans le 7e, dans un très grand appartement, j'organise une grande réception. 3 jours avant cette réception, je la vomis déjà, cette réception. Je me dis, j'en ai rien à faire de tous ces copains qui vont venir. Je ne veux pas la faire, mais je ne peux plus l'arrêter. Parce qu'ils sont tous trop contents. Soi-disant, ils ont été les témoins de l'ascension de ce couple qui s'est mis à gagner tellement d'argent, qui est international, blabla, toutes ces fadaises. Et moi, je suis très malheureuse. Et c'est lors de cette soirée que je vais m'enfermer dans ma salle de bain pour me regarder dans la glace, pour me parler à moi-même, pour me dire « t'en es contente de ta vie ? Tu pleures, tu travailles, tu attends, et ça te mène où ? Tu n'as que 26 ans. » Et à ce moment-là, j'entends des bruits dans ma chambre, j'entends mon mari qui parle à une fille, et je ne sais pas ce qui me prend, je reconnais bien la voix de la fille, et je vois très bien laquelle c'est. Elle m'avait dit « tu sais ton mari, je peux partir avec à n'importe quel instant. » Et je lui avais répondu « vous êtes nombreuses dans cette situation ». Et là, mon instinct, en une seconde, je décide de partir, de quitter cette vie, d'emmener mes enfants avec moi et de partir pour ne plus jamais revenir. Et c'est ce que je fais. Je pars avec 2000 francs, sans carte bleue, sans chéquier, alors que quand mon mari partait, il me laissait des lettres. Je pars avec l'argent disponible, le chéquier du Crédit Agricole, je ne sais pas quand je reviendrai, etc. À 2h du matin, je suis dans la Volkswagen avec mes 3 bouts de choux qui sont en pyjama, en robe de chambre. On a mis à peine une demi-heure pour se faire une petite valise chacun. Je ne voulais rien de mon ancienne vie, rien du tout. Et je leur disais surtout, on va à Cadaqués où je les emmenais en voyage, en été, en vacances.
En Espagne.
En Espagne. Et là, je suis en train de sangloter sur mon sort. Et en même temps, j'éclate de rire parce que précisément, je me dis, moi, je pars. Mais c'est les enfants que j'emmène. C'est pas un chéquier.
Vous écrivez à ce moment-là dans votre livre, le conte de fées de mon enfance s'était avéré être une suite de contes mal faits.
Ou de contes défaits.
Voire des faits,
bah oui. Tous ces 10 ans, pourquoi ? Puisque 10 ans après, je suis dans une voiture avec mes 3 enfants, sans argent. Et là, je pars à l'aventure. Alors, je voulais être une aventurière, je voulais visiter le monde. À défaut de visiter le monde, là, j'avais 1200 km à faire pour arriver à Cadaqués, qui est la première étape. Il n'y avait plus de compte à faire. Il y avait 2000 francs, point. Et je ne voulais rien d'autre.
C'est pour dire que même dans les pires situations, vous trouvez l'énergie pour quand même trouver...
À un moment donné de ma vie à Cadaqués, je suis là avec les enfants, on n'a plus d'argent et je demande à un copain si je peux me mettre devant son restaurant et faire des crêpes quand les gens rentrent de la plage. Et ce qui est très drôle, c'est que je gagne un argent fou et avec mes crêpes et que ça me fait rire toute seule. J'ai une chance mais inouïe de savoir faire de l'argent. Et ça m'a sauvée à chaque fois. Parce que d'arriver à Cadaqués en plein hiver avec ces 3 bouts de choux, c'est pas... Il y a plus folichon comme situation. Hein.
Et par la suite, vous allez même avoir une parenthèse américaine.
Parce qu'en 68, lors d'un séjour à Cadaqués où j'étais venue me reposer, il y avait toute une bande de hippies. Il y avait un qui avait la syphilis, donc qui était indécemment beau. Mais le soigner, il n'y avait personne pour le faire. Et là, j'ai vraiment eu envie de le soigner. Mais en soignant ce garçon, encore une fois, j'avais un instinct absolument incroyable. Parce que 6 ans après, alors que je l'ai soigné pendant 15 jours et plus jamais revu, je vais le retrouver en Amérique, à Martha's Vineyard. C'est une île en face de Boston, extrêmement chic, où tous les New Yorkais, les Bostoniens très très wealthy et
Obama y va aussi.
Et tous les présidents des États-Unis ont une résidence à Martha's Vineyard, les Kennedy aussi. Et moi j'ai vécu un an là-bas Et à un moment donné, je vois Jacqueline Kennedy, le 18 octobre 1976, qui se promène à 9h du matin dans la brume avec ses deux enfants, qui ont 15 ans et 17 ans. Et je ne sais pas ce qui, pourquoi, moi je vois la scène de l'enterrement avec le petit manteau bleu du petit John John, qui est au garde à vous. Et en une seconde, je me dis, il y a des marques de luxe pour tout dans la vie. La haute couture, les bijoux, les parfums, les chaussures, les sacs, les voitures. Mais il n'y a rien pour les enfants, qui sont ce qu'on a de plus cher au monde. Et je visualise la première marque mondiale de luxe pour enfants. Et je vois tous les produits se défiler. Donc c'est un fil qui se tire et je vois la naissance de Tartines et Chocolat.
Vous dites dans votre livre, hein, « Votre destin se jouait à cet instant-là. J'étais habitée par une force aussi inébranlable qu'invincible. »
Oui, je suis vraiment habitée. J'ai l'impression que j'ai une force indestructible et que rien ne va se mettre en travers de ce chemin. À chaque fois qu'il y a un grand défi, je suis habitée. Et c'est positif, et c'est constructif.
Et pourtant, votre père, à nouveau, vous dit... Non, c'est pas
ah oui, parce que...
Même vos enfants aussi. Son regard était toujours si important.
Papa, c'est le seul homme qui reste. Bon, papa n'est plus là, il reste papa. Et je lui dis, papa, ça y est, je vais créer la première marque mondiale de luxe. Il me dit, mais tu vois quelle heure il est 7h du matin. Mais je venais de trouver le nom de Tartines et Chocolat. Ça, c'était le 17 janvier 77, à 7h. J'avais commencé en octobre tous mes petits produits. Et je trouvais le nom de Tartines et Chocolat. Et là, j'appelle papa. Et je n'ai aucun écho. Mes enfants, eux, ils étaient trop petits. Ils avaient vu qu'on avait mangé du riz complet pendant 2 ans et qu'on était complètement fauchés. C'est compréhensible, mais mon papa, mais mon père, évidemment, il n'a pas eu de succès. Il ne sait pas ce que c'est que le succès professionnel. Il n'a pas eu la chance d'en connaître. Il a eu, au contraire, et ça m'a tué, il n'a pas su maintenir l'héritage de maman. Donc, il pouvait pas. Ça me paraissait logique qu'il ne me comprenne pas.
Of space to another galaxy. Our polarity shifted around. There's nothing else left holding us down. And it's just gravitational. We are unstoppable. I just can't escape the pull. We are unstoppable.
Pierre Planchon sur France Inter.
Alors, Tartines et Chocolat, Catherine Pavin, pourquoi Tartines et Chocolat?
Alors, Tartines, maman venait me chercher quand j'étais petite, c'est le moment le plus radieux que j'ai de souvenir de maman. Elle venait me chercher au lycée de garçons avec des tartines beurrées et des barres de chocolat. Et c'était le seul moment gai de la journée parce que je déteste me lever, je déteste me coucher. À table, je me faisais tout le temps engueuler et finir au coin. Et là, c'était une sorte de moment de grâce dans la journée. Et donc, mes enfants et mes copines m'appelaient, enfin, Tartine. Beaucoup de gens m'appelaient Tartine. Et le 22 novembre 76, je vais rencontrer Bertrand Pavin, dont je vais tomber amoureuse à la seconde même. Aux vacances de Noël, il vient dans ma maison de Bretagne que j'ai gardée, à côté de l'usine. Il vient des copains et mes enfants donnent des surnoms à tous ses copains. Bonne soupe, spaghetti, ketchup, et Bertrand est appelé chocolat. Pour moi, c'est une évidence, c'est la marque de cette entreprise. À partir du moment où je vais rencontrer Bertrand, il ne va plus y avoir d'écueil. Je vais toujours être au bon endroit, au bon moment, et avoir les idées qui sont les bonnes.
Qu'est-ce qui fait que votre première collection tartines et chocolat a eu autant de succès?
Dès qu'on fait une collection, on prend un stand au salon de la mode enfantine. Au salon de la mode enfantine, ce sont des petits espaces qui vont de 9 mètres carrés à 100 mètres carrés. À cette époque-là, on est en 77. Et le plus grand stand, c'est Petit Bateau. Et les vêtements sont présentés sur des cintres qui sont eux-mêmes attachés sur des tringles à hauteur d'homme. Et moi, je vais tapisser mon stand en piqué blanc avec un beau galon, mettre une moquette bleu ciel ou gris clair, mettre une table blanche, un buis, et mes vêtements roses seront sur le mur de gauche, les bleus sur le mur de droite et les blancs au milieu. Donc, il y a un nom qui correspond à une collection de petits produits miniatures impeccablement visibles sur le stand. Et la grande différence avec tout le monde, j'ai fabriqué déjà 25 pièces de tous ces vêtements dans 3 tailles, 3 mois, 6 mois et 1 an. Et les gens peuvent passer les commandes et avoir leur stock tout de suite. Ces méthodes n'existaient pas. Dans le luxe, on prend des commandes, on les livre dans 6 mois, que ce soit homme, femme ou enfant. Ce système de cash and carry n'existait que dans le sentier pour des vêtements qui n'ont pas de marque connue. Ce jour-là, pour la première fois au salon de la mode enfantine, les gens voient en passant dans le chemin, sont arrêtés par... C'est un concept. Tout est beau, enfin tout est clean. Blanc, ciel et rose pour des petits bébés, et le succès est au rendez-vous.
Alors, parce qu'on n'a pas dit, vous, en fait, toute votre enfance jusqu'à votre mariage, vous étiez habillée par une couturière.
Alors mon père avait beau être en déconfiture totale, rien ne pouvait arrêter le fait qu'il veuille pour sa fille une couturière. Il ne supportait pas l'idée que je sois habillée avec les vêtements Carabée vendus dans son magasin. Et je me rappelle fort bien de toutes mes petits chemisiers bleu ciel et blanc à rayures. Et en plus, quand j'ai eu Nicolas, Caroline et Emmanuel, évidemment que je les ai habillés avec des petits vêtements rose et blanc et bleu ciel et blanc. Et là, je me disais, ce que je me suis toujours dit pour les 3 affaires mondiales que j'ai eues, si ça me plaît à moi, ça peut plaire à d'autres. Si j'en ai marre de laver des nappes et que j'ai envie de cette de table, c'est que d'autres femmes modernes auront envie de la même chose. Si moi j'ai envie d'habiller ma petite fille en rose et blanc et mon petit garçon en bleu ciel et blanc, parce que c'est trop mignon, je pense que d'autres aussi. Donc ça, c'est toujours ma ligne de conduite. Et ça a été partagé. Et quand il a fallu faire des peluches, là je suis retournée appeler monsieur Dubois qui avait la société chez qui je coupais mes salles de table. Et quand il a fallu faire des peluches, là je suis retournée appeler monsieur Dubois qui avait la société chez qui je coupais mes salles de table. Et monsieur Dubois, avec joie, m'a fait ses peluches, mais dans mes couleurs rose et bleu.
Qui a été un succès aussi.
Oh ben, ça a été un succès. Je pense qu'on en vendait des centaines de milliers par an. Et quand soudain, après, il y aura la mascotte, le hérisson, le fameux hérisson debout avec une poche, qui va être le porte-drapeau du parfum, le petit sans bon.
Alors ce petit sans bon, justement, vous dites que c'est un cadeau du ciel. Est-ce que c'était de la chance, le hasard, le karma, une protection divine?
C'est tout ça en même temps. Quand on achète notre premier château, c'est le 19 novembre 79 à 19h. Et le château était impeccablement propre. Et quand on est monté à la visite du grenier, il y avait 3 flacons en verre. Un flacon était gravé petit sambon, l'autre grand sambon et le troisième fait dodo, avec un bouchon carré en argent avec un logo. Là, on est en 79. Et quand je décide de faire le petit sambon en 85, j'ai le prix de meilleure femme d'affaires cette année-là, donné par Veuve Clicquot. Et Veuve Clicquot a eu la bonne idée d'être rachetée ou vendue à Givenchy, en tout cas de s'être associée. Ce qui fait que le jour de ma remise de prix, les présidents de Givenchy sont là. Je me dis, il ne faut pas que je le lâche. Je suis portée par tout un auditoire parce que j'avais loué un grand château. Il y avait des chasses présidentielles, il y avait tout le CAC 40 de l'époque qui venait chasser. Tout ce monde-là me supportait. Et moi, je ne voyais pas tout ça. Je voyais juste le patron de Givenchy, Parfum. C'est le moment de sortir le petit sambon. Je vais être connue, je vais être dans les journaux avec mon prix de femme d'affaires, tartine et chocolat qui marche vraiment bien. J'avais eu cette idée-là quand j'avais accouché de Guillaume, parce que personne ne m'offrait de vêtements.
Mon quatrième enfant.
Et quand j'accouche de Guillaume, on ne m'offre évidemment pas de vêtements, donc on m'offre des fleurs et j'étouffe sous les fleurs. Et là, je repense au petit sambon qui est dans le flacon qui était dans le grenier. Et je ne lâche plus cette idée parce que, mais on ne pouvait pas fabriquer soi-même et diffuser. Là, on est dans un autre domaine, on est dans l'industrie lourde. C'est par mon travail que j'avais fait toutes les premières collections de tartines et chocolat. C'est par mon travail que j'avais ce prix. Et quand je dis que Dieu est là, mais c'est pour me rassurer parce que je me dis, j'ai Dieu qui m'apporte ce flacon, j'ai la vie qui m'apporte cet homme merveilleux qui est l'homme de ma vie, mes enfants qui vont tous bien, cette famille qui s'agrandit, on est cinq. Oui, je mélange tout. Je mélange la chance, le hasard de ces bouteilles dans le grenier, mais chaque chose a sa place dans la vie.
Et donc, vous rencontrez ce monsieur Givenchy.
Je rencontre Jean Courtière, et Jean Courtière est amoureux et lui-même est amoureux, est en train de se marier, et va avoir un bébé. Donc, on est tous les deux portés par des raisons différentes, et le petit jambon va naître, et va être lancé à Paris et va être un succès d'abord français, puis tout de suite européen, puis les États-Unis, puis le Japon.
Et oui, c'est incroyable. Vous allez, le petit sambon va battre même les parfums Chanel et Dior.
En 87, un journal, le journal authentique de la parfumerie, je ne sais plus comment s'appelle ce magazine, dit que pendant un an, le petit sambon a fait plus de chiffre d'affaires que le numéro 5 de Chanel et Dior réunis parce que, comme il n'y a pas d'alcool, il y a une version sans alcool, il y a une jeune fille qui a fait la Marilyn Monroe de Tokyo. Une jeune fille très connue qui a dit que comme il n'y avait pas d'alcool, elle s'aspergeait avec ça toute la journée. Et ça a été une folie au Japon et pendant une année. Et il y a une autre anecdote, c'est que je vais... avec la version sans alcool, non seulement être acheté par les petits japonais bébés, mais tous les ados vont faire ça. Et quelques années plus tard, alors que je suis dans le Concorde, en train de partir lancer le petit sambon aux États-Unis, Calvin Klein est assise à ma gauche dans l'avion, et se lève et vient vers moi pour me dire qu'il veut m'embrasser et pour me remercier. Alors je lui dis, mais de quoi mon Dieu ? Et il me dit, vous avez ouvert la voie des eaux de toilette pour ados. Et moi, derrière vous, je me suis engouffrée et j'ai fait Sikewan.
C'est
Kawan.
Ah, c'est oui, c'est dingue.
Alors que c'était totalement inattendu. Donc ça fait partie des belles anecdotes de cette vie de tartine et chocolat.
Et l'histoire est loin d'être terminée, une histoire à rebondissements que je vous propose de poursuivre la semaine prochaine. Je vous rappelle le titre du livre de Catherine Painvin, Une vie et 5 minutes, paru chez Jean-Claude Lattès. Je vous rappelle que vous pouvez podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr, partir avec Marie-Pierre Planchon et la partager avec vos nombreux amis. Je vous donne rendez-vous dimanche soir prochain donc pour la suite de cette aventure. Je vous souhaite une très belle semaine et comme le disent les Grecs, Kalinikta, que votre nuit soit douce et sucrée.